Bonjour et bienvenue dans ce premier tiers du cursus sur le design applicatif. Effectivement, il y aura trois tiers dans ce cursus et le premier qui nous occupe aujourd'hui va consister à vous parler du process du designer applicatif, vous parler de ses compétences et de ses préoccupations quand il doit designer une appli et enfin, quels sont les cinq grands métiers de design applicatif pour vous permettre de faire un choix si jamais vous comptez embaucher à l'issue de ce premier tiers. Dans les autres tiers, nous verrons les outils qu'utilise un designer applicatif et enfin, dans le troisième, nous ferons de l'intégration puisque nous partirons d'un projet déjà développé et nous ajouterons la patte design à ce projet. Voilà, il ne me reste qu'à vous dire, accrochez votre ceinture, on est parti.
Alors, le design applicatif, tiers 1, définition du design applicatif. Donc, je me présente, je m'appelle Michel Rousseau, je suis évangéliste technique pour tout ce qui concerne l'expérience utilisateur et le design interface chez Microsoft France. À la question, le design applicatif, c'est quoi ? Quand je suis en session publique avec des gens, on me répond souvent des choses qui sont très très intéressantes, comme c'est du graphisme, c'est une manière de présenter son contenu, c'est de l'ergonomie. Tout ça, ce sont des réponses qui sont très très intéressantes, mais qui sont incomplètes. Aujourd'hui, le design applicatif, et de manière générale le design tout court, c'est un process. Quelque chose de bien identifié, bien borné, avec des passages qui sont connus. Donc ce n'est pas de l'art, c'est pas pour faire joli, ou c'est pas pour se la raconter en disant « Oui, j'ai créé un nouveau département plein de designers qui vont m'aider. » Non, c'est un process. Et c'est un process essentiellement de résolution. Ça veut dire quoi un process de résolution ? Ça veut dire qu'on va se poser des questions autour d'une problématique. Par exemple, mon application a toujours été sur les stores et je voudrais en faire un site web. Ou je voudrais passer mon application qui est uniquement PC dans le monde du mobile, ça c'est une problématique. Et ça va engendrer tout un tas de questions qui vont permettre au designer de travailler. Ça peut être aussi la résolution d'un enjeu particulier, dire par exemple, moi je m'intéresse désormais aux populations atteintes de cécité, je veux que mon application soit utilisable par les malvoyants, ça c'est un vrai enjeu de société et un vrai enjeu qui rentre dans le process de résolution. C'est un process de résolution intégré. Oui, le designer ne travaille pas un petit peu en avance de phase ou à la fin du projet. Il travaille tout au long du développement de votre application parce que le process de design est composé de nombreuses facettes, de l'ergonomie, de l'usage, du test, du graphisme et ainsi de suite. C'est un process de résolution intégré obligatoire. On se rend compte aujourd'hui que les applications sur les stores sont téléchargées en fonction du niveau de design qu'elles proposent. Il n'y a pas d'alternative à un manque de design. Il y a un bon ou un mauvais design. Si vous ne faites pas de design dans une application, votre application ne sera pas téléchargée. Par exemple, ici, j'ai une image de Windows 10 qui est un produit pour le coup très très designé. Imaginez-vous ce que ça donnerait s'il n'y avait pas eu de design applicatif derrière. Ça donnerait ceci. On en reviendrait aux lignes de commande. Donc le design, c'est une véritable plus-value pour tout un tas de choses. Et notamment, c'est un process établi avec des passages obligés. En l'occurrence, j'aime bien celui-là parce qu'il permet de bien comprendre que l'on part d'une idée globale et qu'on l'affine jusqu'à la réalisation. Ça, c'est un exemple de process de design. Mais si vous faites une rapide recherche sur Internet, vous vous rendrez compte que des process de design, il y en a énormément. Chaque grande société a le sien pratiquement. Donc ça veut bien dire que le process de design est quelque chose qui est identitaire, qui est propre à l'entreprise qui le crée et de sa méthode de résolution des problématiques. Vous devrez vous poser des questions assez vite quand vous créerez votre application. Est-ce qu'elle est viable ? Donc, se poser des questions au niveau du business, combien elle me rapporte ? Est-ce qu'elle est faisable ? Est-ce que techniquement, c'est réalisable ? Mais le design process, lui, il arrive à un autre niveau. C'est vraiment de se poser la question de savoir si mon application est désirable, si les gens ont envie d'y aller, de rentrer dans le monde que je suis en train de créer dans mon application, savoir s'ils ont envie d'y rester et surtout savoir s'ils ont envie d'y revenir. Et pour tout ça, il y a un certain nombre de techniques de création pour se poser des bonnes questions et d'établir son process de création. Alors, généralement, on commence avec de l'idéation. On essaye de créer le maximum d'idées possibles. En deuxième point, on passe par une phase d'exploration où on va commencer à regarder les idées qui sont les plus valorisables, celles qui sont le plus facilement réalisables. Et enfin, on va passer par une phase de consolidation où on va trancher pour finalement garder le meilleur de l'idéation initiale. Alors l'idéation, on a un autre terme pour ça, on l'appelle aussi souvent le brainstorming. Et le brainstorming, c'est quelque chose qui est aussi très élaboré, qui a déjà un certain nombre de codes. Par exemple, une session de brainstorming ne devrait pas durer plus de 20 minutes. Pourquoi? Parce qu'au bout de 20 minutes, tout simplement, les gens sont fatigués de l'exercice et ne proposent plus de nouvelles idées. Par contre, on peut organiser des sessions de brainstorming plusieurs fois sur des sujets légèrement différents ou alors complètement différents. On peut aussi organiser des sessions de brainstorming de 20 minutes avec plusieurs groupes qui vont travailler sur des sujets légèrement différents ou avec plusieurs approches. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de générer des concepts. Ça permet à partir de ces concepts, d'en extraire un certain nombre d'idées, de trouver des scénarios pour mon application et de définir des approches. Par exemple, ça peut montrer le chemin d'une application, dire bah voilà, je pars d'une landing page, sur cette page, je vais mettre effectivement que je veux vendre des chats. Ouais, mais le deuxième groupe veut vendre des chats sur Mars. Très bien, on va mettre ça dans notre brainstorming. Donc les qualités requises pour un brainstorming, c'est un peu de folie, hein. Il faut évidemment se lâcher et lâcher la rampe. Beaucoup d'imagination, donc faire travailler les personnes, donc faire travailler les personnes les plus imaginatives de votre entourage. Un peu de poésie des fois et surtout beaucoup de prise de risque. Il faut pas hésiter, il faut pas se restreindre, il faut vraiment apporter le maximum d'idées au moulin. Donc ça se traduit comment? Généralement par des tableaux blancs qui exposent un peu toutes les idées que les personnes ont eues, ou alors de manière un peu plus romancée par ce fameux mur de post-it. Là, on voit que plusieurs groupes ont visiblement travaillé parallèlement et qu'à la fin, leurs idées ont toutes été remises dans des contextes qui sont des espèces de bulles et que des fois, entre certaines bulles, il y a des ponts entre plusieurs concepts. Donc ça, c'est intéressant, on a généré tout un tas d'idées. Deuxième phase, la phase exploratoire. Dans la phase exploratoire, on va rationaliser les approches. On va commencer à trier, passer les premières idées au tamis, savoir comment je ferais les choses, par exemple vendre des chats sur Mars, et pourquoi je le ferais. Est-ce qu'il y a des habitants sur Mars? Qui je touche avec cette approche? On va regrouper les idées. Par exemple, Polo voulait vendre des chats sur Mars et Jeannette voulait vendre des chats sur Pluton, bah on va dire bah tiens, je vais vendre des chats dans le système solaire. Et on va commencer à prototyper des concepts pour établir des schémas mentaux. Prototyper des concepts, ça veut dire commencer à se faire des croquis de à quoi peut ressembler l'application. Et le schéma mental, c'est tout simplement la manière qui m'est proposée pour partir d'une idée initiale, donc d'une landing page, et pour arriver à l'action de mon métier, qui est de finalement vendre des chats, donc pour le client d'acheter des chats. C'est là aussi où on va faire les premiers tests utilisateurs. On va rapidement voir si on trouve les grands zonings, hein, les grandes zones de ma page applicative, et on va commencer à travailler sur les personas. Les personas, ce sont des scénarios qui mettent en scène des personnages fictifs, mais qui me semble, moi, en tant que créateur, intéressant pour ce qu'elles apportent, soit en termes de cible, soit en termes, bah, justement, de défi par rapport à la problématique que je me suis posée. Donc là, au niveau des qualités requises, il faut quoi? Il faut savoir prototyper un minimum, savoir faire des storyboards, des wireframes et des esquisses. Les storyboards, ce sont des planches dans lesquelles je montre les écrans tels que je compte les proposer. Les wireframes, c'est vraiment du zoning à l'intérieur d'un écran donné. Je veux dire, bah, en haut, il y a le logo, au milieu, il y a le contenu, en bas, il y a les boutons. Et les esquisses, c'est une espèce de wireframe qui est destinée à développer rapidement un nouveau concept sur un contrôle. Par exemple, je dois mettre une cellule avec du chat en direct avec un conseiller. Comment je le développe? Eh bien, on va rapidement faire une esquisse, quitte après à en faire un wireframe spécifique. Enfin, il faut avoir un certain degré de curation qui va me permettre de rassembler les idées et, ma foi, de les concaténer. Donc là, par exemple, on a un storyboard. Ce storyboard permet de voir bah, comment je passe de mon premier écran au second et qu'est-ce qui se cache derrière ces différents écrans, quels sont les types de contrôles, où je mets mes boutons. Ici aussi, on a un storyboard qui permet de voir comment je passe d'un écran à un autre et comment j'en reviens. Enfin, c'est là aussi où on va commencer à mettre en place peut-être des scénarios de tactique. Là, en l'occurrence, c'est un scénario qui s'appelle les mood cards, les cartes d'humeur, sur lesquelles, sur des cartes au format carte de visite, j'ai imprimé des premières pages de site web et que je propose à un panel d'utilisateurs. Ce panel d'utilisateurs doit en choisir au début 10 chacun, qui représentent pour eux ce à quoi devrait ressembler l'application finale. Ils en choisissent donc une dizaine et à la fin, ils restreignent leur choix pour en avoir seulement 5. Donc ça donne vraiment une orientation graphique et une orientation philosophique à ce à quoi doit ressembler l'application au final. Enfin, dernière passe, la consolidation. La consolidation, c'est affiner ce qui est faisable et souhaitable. Oui, parce qu'effectivement, vendre des chats sur Pluton, ça fait peut-être un petit peu loin, donc c'est peut-être pas faisable, et c'est peut-être pas souhaitable non plus, parce qu'il y a peut-être des législations spécifiques pour la vente de chats sur Pluton. Par contre, sur Mars, c'est faisable, donc on y va. C'est mettre en place la matrice d'efforts, notamment le planning et le financement. C'est aussi le moment de se poser la question de qu'est-ce que je sais et qu'est-ce que j'ignore, ce qui va vous permettre de définir si vous devez recruter un talent particulier. Et enfin, bah, il va falloir, via des tests utilisateurs, voter, itérer ou trancher. Voter, dire est-ce que cette fonctionnalité, elle est vraiment utile dans l'application? Itérer, c'est dire ok, cette fonctionnalité est utile, mais elle est mal exploitée, les tests utilisateurs montrent que les gens n'y vont pas. Et trancher, c'est de dire effectivement les gens n'y vont pas même après plusieurs itérations, c'est donc que le concept est mauvais. Donc les qualités requises à ce niveau-là, c'est essentiellement savoir prendre des décisions, savoir organiser le travail, savoir faire effectivement, savoir mener des tests utilisateurs et être cohérent. Intégrer l'identité de marque. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose que le designer a tout le temps à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'une marque, c'est très important. C'est dans une marque que l'on aime s'immerger. On a un relationnel particulier par rapport à une marque. Donc pour ça, il va falloir mettre en place une charte graphique, surtout si vous changez de paradigme de base ou de concept de base. Si vous passez du papier au web ou si vous passez du papier à l'applicatif, il va falloir mettre en place une charte graphique qui est spécifique pour l'usage de la marque, pour sa représentation dans ce nouvel espace. Ça va nous permettre de donner une valeur spécifique et intrinsèque au concept que l'on va développer. Par exemple, on sait qu'Intel, quand ils sont arrivés dans la publicité TV, ont choisi ce petit jingle musical pour représenter leur marque de manière auditive. Donc ça apporte une valeur intrinsèque au concept du son. Ça permet de définir une silhouette applicative et un espace colorimétrique qui est propre à la marque. Vraiment, il faut exploiter le logo, la manière dont c'est fait, pour créer une application qui ait une silhouette qui soit unique, que l'on reconnaisse immédiatement. Et enfin, ça permet de coordonner le fond et la forme. Alors pour ça invite les designers à améliorer quelques aspects de leur travail, notamment savoir raconter une histoire. Quand je suis sur la première page de mon application, il faut que d'ores et déjà je me sente immergé dans quelque chose, que ça me parle, que ça me raconte une histoire, que ça soit raccord avec l'idée que je me fais de la marque. Et l'idée que je me fais de la marque, c'est finalement inviter l'utilisateur au partage des valeurs de la marque. C'est là où on va commencer à ajouter de la plus-value visuelle, avec effectivement des logos, avec des pictos, avec une police de caractère spécifique. Et finalement, c'est là où je rends mon application plus désirable. Par exemple, là sur l'application du Store Windows, l'application La Redoute, je suis immédiatement immergé dans ce que fait l'application et je me fais tout de suite une idée de ce que me propose l'appli, que ce soit en termes de produit, mais aussi en termes d'histoire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sera élégant, qui sera bien présenté, qui sera clair, qui sera ordonné, et c'est de la vente de fringues. Deuxième exemple assez parlant au niveau de notre culture française, c'est Paris Match, où là je comprends bien le propos, c'est vraiment le choc des photos, et je reprends l'identifiant de marque à chaque fois dans les petits taquets qui sont disposés en bas des sections, Vivre Match, Culture Match, People Match et ainsi de suite, qui reprennent les couleurs et les identifiants de la marque. Ceci dit, chaque plateforme dispose de sa propre identité de marque, puisque les utilisateurs, notamment de ce produit-là, ne sont peut-être pas forcément les mêmes de ceux d'un autre produit, donc on peut spécifiquement décliner une charte graphique pour une gamme de produits ou pour une plateforme particulière. En dehors de l'identité de marque, le designer doit avoir constamment des préoccupations à l'esprit de manière à bien réaliser sa mission. La première, c'est bien entendu la facilité d'utilisation versus la complexité du métier. Il faut toujours proposer la solution la plus simple, même si le contexte est compliqué. Et ça, c'est devenu particulièrement crucial, cette notion de stratégie de contenu, quand est arrivée la technologie mobile. Puisque sur un petit écran, dans des conditions outdoor, avec parfois peu de réception du contenu, il a fallu malgré tout exposer des métiers compliqués. Donc pour ça, on se rend compte que dans le mobile, les gens sont beaucoup plus enclins à supporter beaucoup plus d'écrans, donc beaucoup plus de clics pour passer d'une action ou de la page de garde jusqu'à l'action finale qui est celle du métier demandé, par rapport à un PC où les gens voulaient tout avoir sur la page de garde du site pour éviter d'avoir des clics. Donc toujours facilité d'utilisation, c'est toujours un prérequis au niveau du design. Deuxième point, le feedback. Un élément interactif doit signifier son état. Par exemple, un bouton, on doit se rendre compte, quand on appuie sur le bouton, qu'il s'est passé quelque chose. Et s'il y a un délai entre l'action et la réaction, eh bien, il faut renseigner l'utilisateur. Ça, c'est possible via ce qu'on appelle des progress rings, donc des petits trous qui tournent. Ça, c'est pour expliciter le fait que je ne sais pas quand un process va se terminer. Ou alors, par une progress bar. Une progress bar indique un défilement qui est fini, donc une action qui a une fin et un début. Par exemple, là, un téléchargement dont je connais le débit. Troisième point, la consistance. Quelle que soit la page consultée, une interaction donnée doit produire la même réaction. Si je mets un bouton bleu qui sert à faire une action retour sur la page arrière, dans une page, et bien dans une autre page, un bouton bleu doit avoir la même réaction au retour à la page précédente. La fiabilité. Une application doit s'exécuter sans à-coup et sans couture. Ça, c'est primordial pour la confiance de l'utilisateur vis-à-vis de votre appli. Donc, une application doit s'exécuter sans ce qu'on appelle des flashs blancs, notamment quand je passe d'une page à une autre et que le contenu de la nouvelle page n'a pas fini de se charger. Il n'y a rien de plus désagréable que ça. Donc, je dois proposer une expérience qui est souple et linéaire, quitte à mettre effectivement des progress rings ou des progress bars ou un affichage progressif via des animations de mon contenu. La sécurité, bien entendu, une application ne doit pas contenir de cul-de-sac, c'est-à-dire que je ne dois pas pouvoir descendre dans des branches d'une application et me retrouver coincé sans pouvoir remonter. Il y a quelques applications comme ça qui nécessitent de redémarrer l'application. C'est juste une catastrophe au niveau de l'expérience utilisateur. D'ailleurs, à ce propos, une action devrait toujours pouvoir être stoppée ou annulée, surtout dans des cas qui sont un peu critiques, comme du paiement en ligne. Si je vois que ça tourne et que ça ne résout pas, je devrais toujours pouvoir dire « j'arrête ce process », l'application s'arrête et me dit « vous avez annulé le process », donc mettre un message d'erreur pour renforcer la confiance de son utilisateur. L'extensibilité. L'extensibilité, c'est de prévoir un modèle qui puisse, demain, subir une augmentation des données qu'elle utilise. Ça veut dire que demain, je compte faire de la vente de chats à l'extérieur du système solaire dans d'autres galaxies, je dois pouvoir prendre en charge cette augmentation des données. Donc, avoir une stratégie d'affichage qui est compatible avec cette augmentation. La portabilité. Le modèle doit pouvoir s'adapter à un changement de contexte. Quand je passe, par exemple, du PC au mobile, quand je passe du mobile à la console, quand je passe du mobile, effectivement, au papier, tout ça, tous ces points de contact doivent pouvoir s'adapter. Alors ça, c'est particulièrement vrai depuis quelques temps où on parle beaucoup de responsive design, donc du fait qu'une application peut se redimensionner en mode portrait ou en mode paysage et peut aussi se redimensionner jusqu'à son écran de portable. Huitième point, la modularité. Créer des modules indépendants et interchangeables. Si demain mon métier change ou que je rajoute une nouvelle branche à mon métier, je dois pouvoir le prendre en compte dans mon application. Et là, on rentre de plein fouet dans ce que l'on appelle le design pattern, c'est-à-dire que je vais créer des branches qui sont modulaires, interchangeables et qui vont me permettre, en designant une partie, d'avoir déjà les emprises pour d'autres métiers qui seraient connexes ou assez proches. La solidité de l'application. L'application aujourd'hui doit être user-proof, c'est-à-dire à l'épreuve de son utilisateur. Notamment parce que je dois pouvoir revenir à un état précédent sans faire crasher l'application. Ça, c'est un minimum. Et dans le cas où il y a quand même un cas qui n'est pas prévu, un scénario qui se passe mal, mon application doit d'elle-même pouvoir revenir à l'état où elle était avant l'erreur de manipulation. Enfin, dixième point, la performance, bien entendu. Peu importe la plateforme, le langage, la méthode de développement employée, peu importe le type de device sur lequel vous vous trouvez, l'application doit être fluide, elle doit toujours être dynamique, elle doit donc proposer du feedback et elle doit être sobre en ressources. Pourquoi ? Parce que votre utilisateur aujourd'hui est volatile, il va vouloir essayer votre application, puis passer sur une autre et revenir à votre application. Et il ne faut pas que votre application vampirise toutes les ressources qui sont disponibles sur la machine donnée. Enfin, pour finir, je voudrais faire une passe sur les 5 grands métiers du design applicatif. Si jamais cet exposé vous a plu et que vous souhaitez embaucher des designers, il vous faudra bien savoir comment les appeler, quel est leur cadre au niveau de leur métier. Donc effectivement, il y a 5 grands métiers du design applicatif aujourd'hui, notamment l'UX designer. Alors UX, c'est pour user experience, donc c'est vraiment le designer d'expérience. Et le designer d'expérience, il est au centre de l'interaction entre les utilisateurs et le point de contact du métier. Ce point de contact, quel qu'il soit, je dirais. C'est-à-dire que l'UX designer, il va aussi bien proposer du design pour les écrans tactiles que pour le web, que pour le packaging de l'application ou que pour les points de vente. Tout ça fait partie de l'expérience utilisateur et du design d'expérience. Deuxième métier, le UI designer, donc le designer d'interface. Alors là, on est plus proche de ce que l'on appelait précédemment les graphistes, puisque c'est ce métier-là qui crée les interfaces, les structures d'information et les schémas, y compris les schémas mentaux, des fois, qui définissent la relation entre l'utilisateur et sa machine. Et c'est généralement couplé au design d'expérience, puisqu'aujourd'hui, on n'est plus sur un seul type d'interface, le web ou l'applicatif Flash. On est sur de multiples expériences, parce qu'on a de multiples devices, qui certains utilisent du touch, d'autres utilisent clavier-souris. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et ça, c'est un grand travail du graphiste. C'est de prévoir, par exemple, qu'en mode tactile, je vais avoir besoin de contrôles qui seront légèrement plus écartés les uns des autres parce que le doigt est moins précis, finalement, que la souris. Autre grand métier, le motion designer. Le motion designer, lui, il a une vision transverse des applications et il sait traduire le branding vers des plateformes diverses. Par exemple, il va savoir prévoir un design pour le PC, mais aussi pour le mobile, pour éventuellement la console avec ses contraintes qui lui sont propres, mais aussi pour les montres intelligentes ou alors même des objets qui n'ont pas d'interface comme les objets connectés. Donc vraiment, le motion designer, il a cette notion, cette palette beaucoup plus large de devices qui lui sont adressés. Un nouveau métier, le service designer. Le service designer, il est l'acteur de la transformation. C'est généralement quelqu'un que l'on embauche en avance de phase, avant que la transformation commence et que les problématiques se posent, pour permettre de transposer un contexte industriel en un contexte digital. On parle beaucoup aujourd'hui de la digitalisation des entreprises. On est typiquement dans ce contexte-là. On va parler avec un service designer de dématérialisation, de networking, de tout ce qui est social. Donc ça, c'est son métier, c'est de croiser vraiment les nouveaux usages avec ce qui était là précédemment. Et enfin, l'ergonome qui apporte une valeur scientifique et incontestable, qui va permettre d'analyser le comportement de votre utilisateur vis-à-vis des interfaces que vous lui proposez par tout un tas de tests qui s'appellent du fly on the wall, qui s'appelle de l'eye tracking. Donc il va arriver avec tout un tas d'outils qui vont vous permettre de comprendre pourquoi votre application elle est bien utilisée, pourquoi telle partie est sous-employée, peut-être à cause d'un bouton, d'un call to action qui est mal placé dans la page précédente. Donc il va vous permettre d'apporter encore une fois une valeur scientifique et théorique à votre interface. Mais généralement, les gens qui travaillent autour du design sont des gens sympas. Vous verrez, ça se passe très bien avec eux.
Voilà, ainsi s'achève ce premier tiers de ce cursus sur le design applicatif où on aura vu comment procède le designer pour créer du design, quelles sont ses méthodes, quels sont ses process, quelles sont aussi les préoccupations qu'il doit avoir constamment à l'esprit et enfin quels sont les grands métiers du design applicatif. Prochain tiers, nous nous attaquerons aux outils qui sont mis à la disposition du designer pour qu'il puisse mener sa mission à bien. À bientôt, merci d'avoir suivi ce cours et on se retrouve pour le prochain tiers.